Cette semaine, on terminait Libération 21. Certains ont commencé le dimanche, d'autres le mercredi. C'est pas grave, vous savez, on n'est pas religieux ici, à l'Église baptiste de Trois-Rivières. Ce qu'on veut dans Libération 21, c'est pas vous habituer à un exercice religieux annuel ou quoi que ce soit comme ça, mais on veut favoriser un temps, ensemble, collectivement, en famille, pour stimuler notre foi à vaquer dans la prière, le jeûne, de mettre des choses de côté. Et les choses que vous avez mises de côté pendant ce mois-ci, pendant ces quelques semaines, étaient différentes d'une personne à l'autre parce que justement, on n'est pas dans un créneau de religiosité, mais bien de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux mettre de côté pour toi, comme temps, comme chose que je veux sacrifier pour m'approcher de toi, pour chercher ta face davantage. Et certains, donc, ont vécu des bénédictions. Et je vous encourage, si vous avez eu une bénédiction pendant cette période de temps-là, que Dieu a répondu à une prière, que vous avez réalisé des choses dans votre vie, qu'il y a eu une délivrance, une réponse, peu importe, gardez-le pas pour vous. Soyez pas égoïste, partagez votre bénédiction avec quelqu'un dans votre famille, avec votre groupe maison, quelqu'un que vous accompagnez, mais partagez ce que Dieu fait dans votre vie. Parce que lorsqu'on partage ce que Dieu fait dans notre vie, vous savez ce que ça fait? Ça stimule ça autour de nous. Ça glorifie Dieu, ça vante Dieu. Et ça nous fait du bien d'en parler. Gardez-le pas pour vous. Quelqu'un m'a écrit cette semaine et partageait comment que avec 44 ans de vie chrétienne, il y avait quelque chose qu'elle devait saisir dans le dernier mois qui était important dans sa foi. Elle avait cette tendance à prier pour les autres, mais pour elle-même, c'était difficile de s'approprier les promesses de Dieu. Puis elle le disait bien humblement, 40 ans de vie chrétienne. Elle priait pour les autres, faisait une liste des requêtes de prière, puis voir comment Dieu accomplissait ces requêtes-là dans la vie des autres. Mais pour elle, c'était difficile d'entrevoir que Dieu s'intéressait personnellement à ce que ses promesses s'accomplissent dans sa vie personnellement. Peut-être certains d'entre vous peuvent vous connecter facilement avec ce que je vous partage, cette femme-là. Et ça peut être à n'importe quel stade de notre vie chrétienne. Et sa délivrance pendant le dernier mois, c'est de réaliser ces promesses-là sont pour moi personnellement de mon papa, pour moi. Et quel changement que ça a fait dans sa vie. De prendre ces paroles-là et de les appliquer pour elle. Et d'arrêter d'avoir peur que peut-être ils ne se réaliseront pas, je vais être déçu. Ou peut-être que, mais non, c'est pour moi, personnellement. Vous voyez? C'est un exemple de quelqu'un qui a vécu une bénédiction dans sa relation intime, personnelle avec Dieu dans le dernier mois. Et certainement, vous avez des choses aussi à partager. Partagez-les autour de vous. Ne les gardez pas de grâce pour honorer le Seigneur, le vanter et célébrer ce qu'il fait dans votre vie. Amen. J'aimerais vous inviter à aller dans votre Bible, dans Marc chapitre 10 et les versets 28 à 30. J'aime souvent, dans les prédications, surtout dans les séries, j'aime couvrir beaucoup de terrain dans les Écritures. Je tente avec vous de couvrir le plus des Écritures possible pour vous faire connaître autant le Nouveau que l'Ancien. Et ce que je vous partage ce matin, c'est complètement à côté de mes habitudes, et ça me fait du bien de sortir de mes habitudes aussi, on a tous besoin de ça. Et je vous partage de mon cœur un texte qui m'a fait du bien dans la dernière année, que j'ai compris comme je n'avais jamais compris auparavant. Certainement, vous avez dans votre lecture personnelle lu des passages, vous les connaissez. Puis à un moment donné, pour une raison quelconque, dans votre lecture, boum, elle ressort. Puis là, vous la saisissez personnellement, alors que vous la lisez chaque année peut-être, ou vous l'avez lu plusieurs fois. Mais des fois, à différents moments donnés dans notre vie, ça nous parle plus. Et j'ai écouté un prédicateur pour la première fois prêcher sur ce texte-là il y a quelques mois en arrière. Et que ça m'a fait du bien, ça m'a frappé en plein visage la grandeur des promesses que Dieu a dans ce texte-là. C'est un des textes qui se retrouve dans ceux qui ont été notés par M. Tim Keur dans le livre que plusieurs ont acheté et lu pour justement cultiver notre appropriation des promesses de Dieu. Alors, M. Tim Keur en a mis 2500 à travers son livre répertorié et c'en est une de ceux-ci. Ces promesses de Jésus. Et c'est une promesse qu'on connaît et pourtant, il me semble qu'on passe à côté de beaucoup de vérités à l'intérieur qui vous engagent, vous et moi, dans sa promesse. Non seulement de recevoir, mais d'y participer. Et j'espère ce matin que vous serez saisis comme je l'ai été de la profondeur de ce texte-là dans ma vie personnelle et l'implication qu'elle apporte dans notre vie comme Église globalement. Et si je vous mets en contexte, en fait, vous rappellerez le fils, pas le fils prodigue, mais le jeune homme riche dans cette histoire. Et dans le chapitre 10, cette histoire où finalement ce jeune homme riche va repartir d'avoir parlé à Jésus, déçu de réaliser que Jésus lui demande de tout laisser sa richesse, de tout vendre, d'abandonner. Il ne demande pas ça à tout le monde, mais dans son cas, c'était son idole. C'était important dans sa vie, il ne l'avait pas saisi pleinement. Et Jésus va lui demander de céder ce qui était le plus important dans sa vie, son idole à lui. Alors qu'il pensait être religieusement impeccable, vends tout et suis-moi. Et l'homme va partir déçu parce qu'il ne le fera pas. Et pour lui, ça a l'air d'être une immense montagne. Et Jésus va parler des richesses qui bloquent les gens. Et les disciples vont dire, mais là, c'est impossible d'être sauvé dans ce cas-là. Il faut tout sacrifier comme ça. Qui est prêt à faire ça? Puis les riches, voyons donc. Et Jésus parle de cet impossible comme étant possible pour lui dans les versets qui vont suivre. C'est possible pour lui. Et c'est ce qui va apporter. Maintenant, les disciples vont se poser la question, mais nous autres, on a fait des sacrifices. Qu'est-ce qui arrive pour nous? Et donc, je vous lis ces quelques versets, puis on va prendre le temps de les expliquer davantage après. Chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire à Jésus, « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Lui, il est découragé de te suivre parce que des exemples, mais nous, on a tout laissé le Seigneur Jésus, là. Nous, on est là, on a fait bien des sacrifices, là. On se promène avec toi, on a laissé notre femme, nos enfants, ceux qui sont mariés, notre mère, notre père, le confort, nos jobs, nos embarcations, etc. On te suit, là, nous autres. Nous autres, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Eh bien, nous avons laissé tout pour te suivre. Jésus lui dit, en vérité, quand Jésus dit en vérité, il est en train d'attirer notre attention là. Ce qu'il va dire va être extrêmement important comme déclaration. En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile sans recevoir au centuple. Maintenant, et en ce temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et il termine en disant beaucoup des premiers, ceux que nous on voit comme étant en avant de tout le monde, en notoriété, les premiers en ligne, les premiers en notoriété, respectés par les gens, etc., seront les derniers. Et des derniers seront les premiers. Seigneur, nous te demandons de bénir la lecture de ta parole ce matin dans nos cœurs. Fais-la descendre, Seigneur, dans nos cœurs et saisir l'ampleur de la promesse que tu mets dans ces deux versets. Seigneur, aide-nous à saisir ce matin les promesses que tu nous as données ici et qu'est-ce qu'elles impliquent pour nous personnellement. Et ce matin, peut-être certains se posent la question. Est-ce que je suis prêt à tout laisser pour Jésus? Est-ce que ça vaut la peine, Seigneur, de tout abandonner pour toi? Seigneur, réponds à nos questions ce matin. Parle-moi. J'en suis le premier qui en a besoin. Et nous te le prions, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai oublié la petite manette. Ah, elle est juste ici. Parfait. Je vous mets en contexte par la prochaine diapo. Vous aidez à saisir comment, au milieu de ce texte, il y a cette promesse qui est comme un pic de montagne au milieu du chapitre. On a parlé, ceux qui ont lu le chapitre, je dis « on » dans le sens de notre lecture commune, vous connaissez cet endroit où il invite les gens à accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Aux disciples. Et c'est ce qu'on retrouve dans les versets 13 à 16. Après avoir parlé d'accueillir le royaume comme des petits-enfants, il y a ce jeune homme-là qui veut avoir le royaume de Dieu, qui veut entrer au ciel et qui a la richesse comme obstacle et qui a la religiosité comme arme. Et Jésus le désarme complètement et lui expose plutôt son idolâtrie. Et là, les disciples, comme je vous l'ai mentionné, sont devant tout cela et finalement, il les reste disant, écoutez, oui, c'est vrai, humainement, être sauvé, c'est impossible, mais pour moi, tout est possible, dit Jésus. Et là vient ce pic de montagne dans le chapitre qui est cette promesse de récompense pour ceux qui vont être fidèles, et qu'on va éplucher. Immédiatement après vient cette annonce de Jésus pour sa mort et sa résurrection qu'il donne aux disciples. C'est pourquoi on va lire ces quelques versets tantôt pour le repas du Seigneur à la toute fin. Et après vient une autre question des disciples qui dit, ben, d'une manière un peu ironique évidemment, mais on peut-tu être les premiers, un à ta droite et un à ta gauche? C'est la mère des gars, les fils de Zébédée, qui leur demande ça. Les gars aussi, on voit que les gars sont impliqués dans la question, etc. Puis là, Jésus dit, je ne peux pas vous donner ces places-là, ce n'est pas à moi de choisir, etc. Et il va leur parler de la vraie grandeur et finalement leur exposer que la vraie grandeur se vit en servant. Intéressant. Et Jésus va dire, je suis venu comme serviteur parmi vous pour être offert en rançon pour beaucoup. Le verset 45 qui est là aussi, là maintenant, une déclaration de Jésus. Mais c'est cette promesse qu'on regarde au milieu de ce texte-là ici, qui est comme ce pic, ce sommet, et qu'on veut regarder ce sommet de promesse. Et qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous et moi? Et mon plan, vous allez voir, est assez simple ce matin. Ce que nous laissons derrière ou en arrière, premièrement, ce que nous recevons, et en dernièrement, à la fin finalement, ce que nous pourvoyons dans la promesse. Donc, ce que nous laissons en arrière, ce que nous recevons et ce que nous pourvoyons nous-mêmes dans cette promesse-là. Je vous lis un petit paragraphe d'un auteur que j'apprécie, un professeur en Europe dans un des séminaires francophones, et il dit ceci dans son commentaire. Pierre s'interroge sur le salut des disciples. N'ont-ils pas quitté tout pour suivre Jésus? Et Jésus les réconforte. Le salut est une réalité pour les disciples et pour tout homme qui place en Jésus la première place dans sa vie. Ils recevront dans la vie à venir la vie éternelle, dit Jésus. Jésus signale aussi que les bénédictions des disciples ne se limitent pas à la vie éternelle. Est-ce de leur vivant aussi déjà au présent qu'ils en profiteront? Celui qui renonce à ses biens terrestres en reçoit de nouveau ici sur terre même. Le renoncement concerne les richesses plus précieuses pour les Juifs, les liens familiaux. Ici, regardez la liste, c'est surtout les liens familiaux qui sont mentionnés. Et l'héritage ancestral qui était une terre qu'on ne vendait pas, mais qu'on passait de père en fils. L'engagement, donc ici, il est question ici de ce qui est supérieur et qui est demandé au jeune homme riche, les relations plutôt que la richesse. Le lien de sang le plus précieux sont mentionnés, l'ascendance père-mère, la descendance enfant et co-héritier, frère-sœur. Jésus mentionne aussi épouse, mais Marc le met de côté, on le mentionne dans Matthieu et dans Luc. Jésus mentionne aussi ici les maisons et les champs, c'est-à-dire des biens qui ne pouvaient être vendus, mais qui devaient être transmis de génération en génération. Peu importe. Le Seigneur s'occupe de tout cela. Et peut-être pour ce matin, ça vous rappelle, certains d'entre vous, ce que vous avez laissé pour Jésus. Vous n'y avez pas pensé, vous l'avez juste fait par la foi. Quand vous avez été saisi de ce que Jésus a fait pour vous, vous l'avez réalisé, vous avez juste mis ça de côté, vous êtes allé, et même en lisant ça, vous réalisez, c'est vrai, hein? J'ai perdu telle chose. Et là, vous pouvez apprécier maintenant déjà une partie de ce que vous avez déjà reçu de la part du Seigneur. Vous savez, ce qui est intéressant avec Jésus, Jésus est très honnête et va dire exactement ce qu'il en coûte pour les disciples. Il va avoir quelque chose à laisser en arrière. Il va y avoir même persécution. Il y a un coût à tout cela. Lorsque vous et moi recevons régulièrement cette petite notification mise à jour, sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi souvent je dis « Ah, reporter. Ah non, j'ai pas le goût. Ah non, reporter. » Tu sais jamais comment la mise à jour va finalement aboutir, puis il y a des petites affaires qui vont bugger, des affaires qui vont changer, qui ne font pas ton affaire. Puis là, à un moment donné, bon, ben, tu cèdes. Et là, il arrive inévitablement, il faut dire « J'ai lu. » Vous savez ce que je veux dire, hein? On est des chrétiens, on ne ment pas. Et là, qui a vraiment tout lu l'entente quand vous dites « J'ai lu! » Alors, en riant ce matin, on est tous en train de se confesser. Hein? Qui lit vraiment tout ça, honnêtement, à chaque fois que ça arrive? C'est écrit tout petit, justement, comme une certaine compagnie qui met des ententes très petites en bas des pages, qu'on lit jamais, mais qui finalement, on va nous imposer en cours de route. On ne sait jamais, finalement, si on donne notre vie en signant ces affaires-là. Là. Peut-être on l'a signé notre hypothèque là-dedans, ou on l'a signé une différente... tu sais jamais tout ce que mais tu vas pas lire tout ça, finalement. Mais avec Jésus, c'est pas de même. C'est pas des ententes en petit écriteau que tu vas juste dire « j'ai lu ». Non, Jésus est clair. Il cache rien. Regardez quelques pages avant, chapitre 8. Gardez votre petit doigt là. Regardez le chapitre 8, verset 34. Jésus ne fait pas à croire que c'est tout beau et facile. Et c'est pour ça qu'il ajoute cette promesse-là. Suivre Jésus va demander un engagement et un sacrifice qui coûte. Jésus dira ceci au chapitre 8, verset 34. « Si quelqu'un veut suivre derrière moi, après moi, donc l'idée de marcher à sa suite, c'est ça d'être un disciple, qu'il renonce à lui-même. » Et en mettre littéralement, c'est qu'il renonce à son soi-même. Qu'il charge ou porte sa croix, qu'il me suive. C'est sûr qu'en 2023, certainement qu'il y aurait des compagnies en marketing qui contacteraient Jésus, qui lui diraient, écoute Jésus, nous on a la capacité de faire des ententes beaucoup plus marketing, plus vendeur que ça. Pour l'image, c'est pas très bon pour l'image. Les gens, ça les repousse en arrivant, tu sais, pour t'accompagner. Fait qu'il faudrait que tu changes ta manière de vendre ça. Non, Jésus est cache rien. Jésus est clair. Pour marcher à ma suite, tu vas renoncer à ton soi-même. Parce qu'en français, évidemment, nous, on met le soi avant le même. Hein? Le soi avant l'identité. Dans notre culture. En anglais aussi. Self-fulfillment, on est beaucoup sur l'accomplissement du soi. Et Jésus dit, renonce à son soi-même, qu'on met nous devant tout, le soi, dans notre culture, dans notre langage. S'il n'est pas prêt à se renier, de s'abandonner, de se sacrifier, ça coûte quelque chose. Et au verset 35, il va ajouter, « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Mais c'est pour ça, finalement, tu vas te convertir à Jésus parce que tu réalises que finalement, ta vie est perdue. Fait que dans le fond, si elle est perdue, ben de la sacrifier et lui donner. Je peux juste être gagnant au bargain, mais ça, elle est perdue. Mais si tu ne vois pas qu'elle est perdue, tu vas la protéger, tu vas la garder, tant que tu ne vois pas qu'elle est perdue. Vous voyez? Et là, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Remarquez le motif. Ce n'est pas parce que j'ai fait un calcul mathématique de gain et de perte que n'importe quel objectif peut faire. Pour moi, le motif, pour Christ et pour la bonne nouvelle, l'Évangile. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, finalement? C'est-à-dire, c'est logique, ça serait ridicule de faire autrement. Mais oui, il y a un coût. Vous savez, nous ne réalisons pas trop souvent le parcours tortueux, sinistre, sinueux que les gens ont dû emprunter pour se rendre sur le banc de la même rangée que vous à l'Église. On n'a pas idée comment la personne au bout de la rangée s'est ramassée là. Toutes ces souffrances qui l'ont amenée à tomber à genoux devant Jésus. Tous les sacrifices depuis qu'elle a donné sa vie, qu'elle a dû abandonner, des gens qui l'ont abandonnée, des choses qu'elle a données pour Jésus, et qui finalement se trouve au bout de la rangée, et je ne sais pas vraiment tout ce qu'il y a derrière comme parcours. On ne s'en rend pas compte. Certains, ce matin, l'ont fait avec bon cœur, puis ils ne regardent pas derrière. D'autres disent, « Il me semble, Seigneur Jésus, ça m'a coûté cher. Je ne veux pas être radin, là, Seigneur. Là. Il me semble, ça m'a coûté cher. » Et le Seigneur ici veut vous réconforter. Et remarquez aussi dans ce qu'on a lu que le plus grand coût est relationnel ici. Regardez attentivement le verset 29. Ce sont des relations, ce sont des gens. C'est ça qui a le plus d'importance dans la culture juive, mais aussi au niveau de l'humain, ce qui nous procure de la satisfaction, ce sont ces relations profondes, intimes que Dieu nous donne et qui là ici sont mises de côté pour le Seigneur, pour le suivre. Ce n'est pas nos choses qui sont la plus grosse préoccupation d'être laissées en arrière. Même, oui, si on l'a dans le texte, on parle de terrain. Hein? On parle de champ. Ce n'est pas rien. C'est gros. Un champ familial. Le jeune homme riche en est un exemple. Notez également que c'est la même chose pour tous les humains ici. Il ne fait pas une catégorisation. C'est le même sacrifice familial, que tu sois homme ou femme, que tu sois grand-parent, que tu sois enfant, il y a des sacrifices relationnels. Peu importe quelle culture ou ethnie que tu vis, il y aura des sacrifices relationnels des gens que tu vas laisser. Peu importe ton genre avec lequel tu peux lutter ou te poser des questions, pas de distinction pour l'Évangile et suivre Jésus. Il n'y a pas un Évangile pour l'un ou pour l'autre. Peu importe ton statut, tes études, ta notoriété, tes compétences de travail et ton revenu, il n'y a pas de distinction économique pour le salut. Tous sont invités à marcher à la suite de Jésus et d'être prêts à renoncer à soi-même et de laisser. Il y a un coût bien réel que certains ont ressenti très fort, que d'autres ont moins ressenti. Dans mon cas, je ne peux pas dire que je l'ai ressenti tant que ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne où mon père, lui, ça y avait plus coûté au début de sa vie chrétienne de sortir de sa famille, d'être le seul converti pendant un temps avec sa sœur sur 11 enfants et toute la famille élargie, etc. Et d'aller ailleurs, de repartir à zéro. Et moi, j'ai grandi dans une église où tout, à l'église de Chibiamo, on était, et Danny, justement, elle s'est convertie à cette époque-là que j'étais petit gars. Et Danny, bon, ben, parce qu'il était célibataire, il faisait les scouts avec nous autres chrétiens, ben, c'était Danny. Mais les autres, c'était qui? Mon oncle, ma tante. Hein? Et même aujourd'hui, je vous avoue, dans la quarantaine, je revois ces gens-là et j'ai de la misère à appeler leur nom. C'est encore, salut mon oncle, salut ma tante. Ça fait drôle, mais c'est ce qui était dans l'église. Parce qu'après l'église, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait pas nos familles à Chibiamo. On était loin des familles. Fait que si on se réunissait, on leur faisait cuire le repas, puis là, on se ramassait finalement chez Tremblay pour dîner 3-4 familles, là. Ah, il y en a d'autres, ils allaient au restaurant. Parce que c'était ça, notre famille. Nos mononcles, nos matantes, nos cousins, nos cousines. Fait que j'ai été choyé dans ce sens-là, et peut-être certains d'entre vous, c'est aussi votre expérience. Fait que le sacrifice, peut-être, n'est pas le même. Peut-être c'est un doux souvenir pour vous. Mais pour d'autres, vous avez laissé un pays derrière pour votre foi, parce que c'était dur d'y vivre. Pour d'autres, votre famille vous a renié à cause de votre foi. Certains ont perdu leur couple. Un époux, une épouse, pour votre foi, à vouloir suivre le Seigneur. Pour d'autres, à un moment donné, vous avez perdu votre travail. Vous avez dû abandonner votre travail parce que vous travaillez d'une façon malhonnête, par de l'argent malhonnête. Et vous avez dû abandonner ça pour travailler honnêtement. Toutes sortes de... Jésus est en train de dire, je les ai vus. Je sais ce que tu as vécu. Et j'aimerais te rassurer que rien de tout ça n'a pas valu la peine pour moi. Et même Jésus va déclarer, en fait, tout ça, qu'il en vaut vraiment la peine, si tu te poses la question. Et je vais continuer dans ce sens-là. Mais Jésus est audacieux ici et assume que tout ça vaut la peine, ce que tu peux sacrifier pour lui. Et il n'hésite pas à le dire, et il est en train de dire quand même, cumulativement, toutes ces relations-là, là, si tu les mets toutes ensemble, il est mieux que tout ça. Il est plus satisfaisant, Jésus, que toutes ces relations-là, combinées ensemble, qui forment ta communauté auparavant, et que tu as abandonné, que tu as laissé en arrière. Il est mieux que tout ça. Tu perdrais tout ça, tu avais juste Jésus, tu as tout. C'est ce que Jésus prétend ici. Tellement qu'il vaut la peine, si on comprend bien. Et il n'hésite pas à le dire pour nous inviter à nous engager avec lui, mais en sachant qu'il y aura un coût. Maintenant, avec Jésus, si je n'ai pas seulement Jésus, mais voici ce que j'ai avec. Regardez bien le verset 27, je vous le relis. 28, 29, excusez-moi. verset 30. Sans recevoir au centuple, et là, soulignez ce petit mot-là qui nous passe sous le nez facilement. Maintenant. Je vous ai dit de le faire maintenant, c'est le mot maintenant dans le texte. Maintenant. C'est temps de le souligner maintenant. C'est un petit mot qui passe complètement. Nous, on regarde souvent cette promesse-là, puis c'est juste en fonction de la vie éternelle à venir. Parce qu'elle n'arrive pas souvent, et dans les textes parallèles, ce n'est pas nécessairement toujours mentionné. De recevoir au centuple maintenant. Ah, OK. Il va me donner maintenant. Pas juste après la mort. Pas juste dans la vie à venir et la vie éternelle. Le centuple, il est maintenant. OK. C'est intéressant, ça. Ainsi, l'homme qui renonce à ce qu'il a dû, il y avait de plus précieux dans sa vie, recevra 100 fois plus. Jésus fait allusion ici à la nouvelle communauté qui est l'Église, dans laquelle maintenant on va évoluer. On comprend le mot évoluer ici. Là. Les terres seront aussi remplacées. Mais Jésus précise, attends un petit peu, au centuple, mais avec persécution. Parce que là, vous avez changé de logique. Complètement que ce que le monde offre comme le. Et quand on change cette logique-là de voir ce qui a le plus de valeur et que celle-ci est fait très drastique à ce que le monde considère être de plus de valeur, c'est ta meilleure vie maintenant, fait que profite-en au maximum. Non. Ça, c'est la vie qui prépare la meilleure vie. Fait que fais-la comme il faut intelligemment en suivant Jésus et en faisant les bons choix. Ça vaut la peine. Mais quand tu prends ce choix-là, c'est deux logiques complètement différentes. Qu'est-ce qui arrive quand deux logiques se rencontrent? Ah, j'aime beaucoup ta logique. Ah, c'est très respectable. Ah, oui, ça fait du sens. C'est-tu ça que les gens disent? Non, t'as pas raison. Voyons donc, c'est quoi cette logique-là? On conteste que notre logique est meilleure parce qu'évidemment, notre système de pensée est basé sur cette logique-là. Et Jésus présente toute une autre logique différente qui amène un contraste d'idées. Et vous le voyez aujourd'hui, comment on n'est pas très, très friand de discussions très logiques à bien des niveaux, hein? C'est l'idéologie, c'est nos valeurs qui passent et on confond réalité, science et croyances religieuses, finalement, en fin de compte, soyons bien honnêtes. Cela signifie que les chrétiens ne sont plus attachés à un lieu précis, à un champ en particulier. C'est plus grave d'être attaché à un champ comme tel, comme à l'époque d'Israël. La valeur a changé à ce niveau-là. Ils sont maintenant des étrangers et voyageurs sur cette terre, Pierre nous dit. C'est même Pierre qui pose cette question-là. On est des voyageurs sur terre. On n'est ici que de passage comme des étrangers. C'est pour ça qu'on n'attache pas trop d'importance quand on est en Floride en vacances pour un mois d'acheter un terrain. Nous, on est là pour profiter de la plage puis de la chaleur puis d'avoir rien à faire. Hein? On n'est pas en train de choper, normalement, un terrain. Pourquoi? Parce qu'on est là temporairement comme étrangers. Leur domicile ne sera plus fixe comme par le passé, mais se déplaçant au fil des persécutions et au fil des missions d'évangélisation. Jésus ne dit pas que les chrétiens deviendront des riches propriétaires fonciers parce qu'il leur donne aussi, ils recevront des terres au centuple, mais que leur terre ne sera plus fixe au même endroit. Ils auront plusieurs terres, les uns après les autres. Leur sécurité ne sera plus sur un terrain en particulier, la terre promise, mais dans le Seigneur qui veille sur eux partout où ils vont. Il leur donnera un champ pour se nourrir, c'est-à-dire le pain quotidien qu'ils ont besoin. Et vous savez, pour l'Église primitive, c'est exactement cette expérience-là qui a fait toute la différence. Des gens qui devaient quitter, abandonner d'adorer un Dieu et qui là, finalement, perdaient leur travail, ils étaient ostracisés dans une ville et là, se retrouvaient dans leur communauté. Et là, tout à coup, cette communauté devenait leur famille spirituelle, leur famille tout court, devenait la seule porte auquel ils pouvaient cogner pour de l'aide. Quelqu'un qui n'avait pas le même sang et pourtant était de la vraie famille, de la famille éternelle. Permanente. Et ce qui va amener Paul à dire, à un moment donné, dans Romains chapitre 16, verset 13, il salue Rufus, et qui est choisi par le Seigneur, puis sa mère, qui est aussi la mienne. Oh, elle avait une incidence comme une mère dans sa vie, cette femme-là. Ou Philémon, qui va parler de son fils. Hein? Philémon, excusez-moi, Paul, qui va parler de son fils, Philémon. Onésime, excusez-moi, il parle de ça à Philémon. C'est mêlant. Hein? C'est dans la Bible, en tout cas, là. À quelque part, là. Alors, il écrivait à Philémon au sujet d'Onésime, l'esclave, et il appelle mon fils, mon enfant dans le Seigneur, hein, que j'ai engendré. Tous ces liens familiaux que Paul fait allusion, c'est pour ça qu'à la fin de chacune de ses lettres, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il salue Pierre-Jean-Jacques, puis Sophie, puis Joséphine, puis etc. Pourquoi? Parce que c'est les membres de la famille. Hein? C'était pas juste une lettre de même à l'Église. Non, c'est des gens qui sont le corps de Christ, l'Église, dans laquelle maintenant les chrétiens s'incorporent et qui c'est maintenant leur famille. Fait que si tu as perdu ta mère, avec qui tu ne peux pas avoir une relation aussi profonde, ou qui t'a abandonné, ou qu'elle est morte, dans l'Église, tu vas probablement trouver une maman qui va pouvoir t'accompagner. Et c'est ce que vous avez trouvé, certains d'entre vous. Une maman à l'intérieur de l'Église. Pour toutes sortes de raisons. Et c'est intéressant ici. Moi, je suis un gars de chiffres. Hein, fait que là, j'ai essayé de calculer 100 fois plus. Ça représente quoi, ce 100 fois plus? Fait que 100 piastres, 10 000 piastres. Hey, ça, c'est du 10 000 %. C'est fort, hein? Du 10 000 %. Mais ça, c'est encore plus punch quand on parle de pourcentage. Jésus offre. Écoutez, dans la dernière année, là, regardez vos placements. Non, regardez pas vos placements, finalement. Laissez faire vos... Vous les regarderez dans 2 ans, OK? Regardez-les dans 2 ans. Regardez pas ça, mais mettons que si vous regardez il y a 10 ans, OK? Il y a 10 ans, il y a 5 ans, ça allait bien. 15, 16 % en moyenne par année, même avec la cote de votre personne qui s'en occupait, etc., là. Puis là, hey, là, on est fiers. Moi, je fais du, hey, je fais du 18 % cette année. On est fiers. Jésus offre du 10 000 %. Ça a l'air pichou, nos placements, hein? Jésus n'est pas chiche. Il ne va pas avec des petits points. Non, il est au centuple. C'est une hyperbole, évidemment, on se comprend. Il est en train de dire que ce que chef va vous offrir, là, c'est incomparable. Ça, c'est démesuré. On dit, ah, tu fais du 10 000 %. C'est tellement gros comme chiffre des fois. Là, c'est tellement gros que ça devient comme abstrait. Et c'est l'idée ici de l'hyperbole que Jésus est en train de donner. C'est tellement gros que tu ne pourras pas réellement le comparer pour de vrai. Ça ne se compare même pas ce que Jésus offre. C'est juste trop big ce qu'il offre à côté de ce que nous, on reçoit. Et vous savez, souvent, on parle, et là, il y en a qui disent, ah, mais on dirait qu'il y a un évangile de prospérité ici, il parle de terrain, hein, de champ. J'en vois là, d'évangile de prospérité qui irait utiliser ce texte-là. Est-ce que c'est ça que le texte y dit? Non. Il parle de renoncer avant. Puis après ça, dans toute la liste, les biens matériels sont très petits à côté des biens relationnels dans le texte. Remarquez bien. Parce que ce n'est pas le terrain, ce n'est pas les outils qui amènent le bonheur chez les gens. 80% de notre bonheur est absolument lié aux relations avant tout, pas aux circonstances. C'est les relations satisfaisantes que vous vivez dans votre famille, dans vos relations dans l'Église, qui fait que tout à coup, vous ne voulez pas quitter cette Église-là parce qu'il y a des gens avec qui vous êtes en relation, puis il y a quelque chose de satisfaisant que vous vivez que vous ne trouvez pas ailleurs et que vous êtes capable de passer par-dessus des maladresses de un ou de l'autre. Que peut-être le prédicateur, vous tripez moins sur lui maintenant, vous aimiez mieux l'autre, mais vous allez passer par-dessus. Pourquoi? Ben parce que j'ai des relations significatives dans lesquelles j'évolue. J'ai des mères, des pères, des frères, des sœurs dans le Seigneur, des enfants dans le Seigneur, puis je ne voudrais pas laisser ça. Et c'est pour ça qu'on va rester attaché. Parce que tout comme dans une famille terrestre dans laquelle on vit une relation, c'est toujours facile. Il ne faut pas un petit peu négocier, mettre un peu d'eau dans notre vin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est de la famille. On le fait dans nos familles terrestres pour garder les liens. Et des fois, on n'est pas toujours prêt à le faire dans la famille spirituelle. Vous avez remarqué ça des fois? Pourtant, quelle est la relation qui va durer pour l'éternité? Quelle est la relation qui, elle est promise de Dieu comme récompense, déjà maintenant, comme une partie prenante, comme une sorte de premier paiement pour le plus gros qui s'en vient? Vous me suivez? Et Jésus nous fait réfléchir ici. Il étire notre pensée. C'est ce qui peut amener un homme comme Jim Elliot. Vous rappelez cet homme, les 5 hommes dans les années 50, 57, 58, ces 5 hommes qui sont allés en avion pour aller évangéliser en Équateur. Ce groupe d'aborigènes qui était connu pour tuer les gens qui essayaient de rentrer en contact avec eux. Et finalement, ils ont mis des contacts, etc. Et finalement, ils sont allés et ils se sont fait massacrer, littéralement. Et qu'est-ce qui a amené cet homme-là à être prêt à faire une telle chose? On lit ceci. Elliot, en citant Jim Elliot, c'était un des 5, il y avait M. Saint, etc. En citant un jour les puritains, donc les gens, ces hommes et femmes qui se sont séparés de l'Église en Angleterre il y a 400 ans, qui voulaient vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ seulement et non une institution religieuse, même l'Église d'Angleterre dite protestante, mais qui finalement était très politisée. Il cite ces puritains, il dit « Celui qui renonce à ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre n'est pas un imbécile. » Je vous le relis. « Celui qui renonce à ce qu'il ne peut garder » la terre, pour gagner ce qu'il ne peut perdre, la famille spirituelle et le ciel, n'est pas un imbécile. La raison, en est-il qu'il n'y a rien ici qui puisse se comparer aux bénédictions que Dieu va accumuler sur nous. C'est pourquoi Jésus enseigne ici à ses disciples qu'ils connaîtront une gloire future incomparable à celle qui est annoncée. Et là, tout à coup, des versets peuvent nous venir à la pensée qui font du sens. Quand il dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est de sacrifier des choses pour le Seigneur, pas comme un gamble, pas comme une entente économique, mais bien selon les conditions du Seigneur, pour moi, pour l'Évangile, c'est ce que Jésus met, moissonnera aussi beaucoup. Ou encore l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament. « Jette ton pain sur la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Cette idée d'être généreux avec ce qu'on a et que Dieu s'occupe de ça, de ce qu'on a semé et qu'on va récolter. Évidemment, pas avec un motif économique. Le Seigneur connaît nos motifs si on le fait juste parce que me dit « Ah, il donne, ben, je vais tester. » Non. Et le vieux monsieur Le Tourneau, qui était bien connu aux États-Unis, un industriel qui a écrit un livre sur donner et qui avait bâti son empire et qui donnait finalement à la fin 90% de tous ses revenus. Un homme qui avait réussi dans la vie et il a écrit des livres là-dessus. Puis il dit, cet homme-là, attention à celui qui veut le faire simplement pour un gain, comme si c'était une affaire de un échange économique avec le Seigneur. Et le Seigneur voit les motifs. Puis si les motifs ne sont pas bons, ça n'a aucun lien ici, là. Parce que les motifs sont clairs. Regardez bien, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, l'Évangile. La cause, c'est l'Évangile qui change les vies pour l'éternité. La cause, c'est l'amour de Jésus parce que ce qu'il a fait pour nous et que je décide de suivre et de marcher derrière Jésus. C'est le seul motif. Parce qu'évidemment, il faut qu'il parle du motif parce qu'on est dans un contexte ici de mérite. La dynamique des Juifs qui écoutent, c'est mériter, gagner, travailler. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions avec les pharisiens, c'est pour ça qu'il y a des tensions avec l'homme riche ici qui tente de gagner le ciel. J'ai tout fait ce qu'il faut. Et dans une mentalité de mérite, bien là, tout ça ici, c'est comme un autre logique complètement. Et ce qui apporte la réaction dure. C'est ce qui va faire qu'un missionnaire, par exemple, comme David Livingston, que plusieurs ont lu des fois la biographie, qui a œuvré en Afrique, un homme de grande inspiration, évidemment, puis un jour, il a été interrogé sur ses sacrifices personnels qu'il a fait. Il avait déclaré, cette déclaration incroyable, « Je n'ai fait aucun sacrifice. » Pourtant, ces missionnaires-là, souvent à cette époque-là, des années 1800, ont perdu des fois leur femme dans un voyage, un enfant, deux, trois, quatre enfants au bout de tout ça. « Cela m'a coupé le souffle, » dit la personne qui l'interviewait. « Si vous connaissiez tant, soit peu, David Livingston, entendre ces mots, vous diriez, « Mais voyons donc, je n'ai pas fait de sacrifice. » Ça coupe le souffle. Livingston a compris que les bénédictions que Dieu lui avait accordées et les sacrifices pour le Seigneur Jésus-Christ faisaient que ces sacrifices n'étaient rien à comparer de ce qu'il lui recevait en échange. Les disciples n'avaient rien abandonné pour Dieu en comparaison de ce que Dieu avait abandonné pour eux. Écoutez bien, le disciple de Christ n'a rien abandonné pour Dieu à comparaison de ce que Dieu a abandonné pour lui, pour elle. Et les récompenses qu'il prévoit maintenant, dans cette vie et dans l'avenir à venir, n'avaient absolument aucun rapport dans les extravagances avec ce qu'il avait fait. Maintenant, alors, est-ce que Jésus en vaut la peine? Jésus dit oui. Oui, il vaut la peine de tout sacrifier pour lui. Il n'y a pas de question là-dessus. Et c'est pour ça que Paul va dire à un moment donné, dans Philippiens 3, verset 8, il dit, « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. » Tout ça, c'est une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme rien afin de gagner Christ. La comparaison est juste incomparable. Par contre, si je comprends bien cela, Il y a aussi beaucoup d'implications pour nous qui recevons, par contre, ces bénédictions. Allons un pas plus loin ce matin avec les paroles de Jésus et comprendre qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Donc, on a vu ce que nous laissons derrière. On a vu ce que nous recevons au centuple, d'une manière généreuse de la part de Dieu. Maintenant, ce que nous pourvoyons dans la promesse, un élément qui nous échappe trop souvent et qui devient la conclusion pratique ce matin de notre lecture. Regardez bien. Sans qu'ils reçoivent au centuple quoi? Je vais recevoir quoi? En ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec persécution dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais là, il parle ici des maisons. OK, mais les maisons qu'ils vont recevoir, là, puis les frères qui vont recevoir, puis les gens, puis les sœurs qui vont recevoir, puis les mères, puis les... C'est qui ce monde-là? C'est qui ce monde-là? Regardez autour de vous. Ce monde-là, c'est vous et moi. La personne qui se convertit cette semaine à Trois-Rivières, qui arrive ici, c'est nous autres le cadeau. Vous n'aviez pas pensé à ça, hein? Fait qu'ici, il parlait de votre maison. Faites un double de vos clés, là. Bien, la maison, c'est la qui? C'est évident, là. C'est celle de Jacques. Hein? Puis Marie-Paul. Hein? C'est celle de Jean-François. Puis toute sa famille. C'est la mienne. C'est toutes vos maisons, là. C'est toutes nos maisons ici qui sont promises ici. C'est chacun de nous qui est promis à quelqu'un d'autre ici. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui rentre dans la famille, on n'est pas en train de recevoir seulement ce qu'on reçoit. On devient aussi, parce que Jésus ici est en train de dire qu'il promet ce que nous avons à d'autres. Il promet ce que nous sommes à d'autres, comme identité. Un frère, une sœur, un père, un fils. Peut-être en venant dans l'Église, vous êtes devenu le fils de quelqu'un qui vous a conduit dans la foi, qui a pris soin de vous et que vous avez pris soin de lui comme un père, comme une mère. Peut-être vous avez perdu votre emploi parce que vous aviez un travail malhonnête. Et là, vous êtes dans une situation plus précaire. Et c'est qui vous a hébergé? C'est quelqu'un de l'Église pour qui leur maison est devenue votre maison temporairement dans un moment de transition. Je me rappelle, il y a bien des années, il y a plus d'une décennie, j'avais une tante qui passait un moment difficile. On n'avait jamais planifié ça, puis tout à coup, elle avait une situation difficile, divorce. Puis là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a accueillie chez nous. On n'a pas pensé à ce texte-là du tout. Puis on a été bénis de l'avoir. Elle était plus de 6 mois chez nous, dans un moment de transition, ce qui était vulnérable, et ça a été très difficile pour elle. Et on s'est reviré de bord, ma femme puis moi, après quelques mois, puis on disait, comment qu'on a vécu ça? Et on a réalisé qu'on avait vraiment bien vécu ça. Pourquoi? Parce que ma tante, c'est pas juste ma tante. Au niveau physique, c'était aussi une grande sœur dans le Seigneur. Et là, tout à coup, on vivait la communauté dans cette expérience-là. Vous voyez? Et ici, Jésus est en train de promettre quelque chose à vous, mais après que vous l'avez reçu, vous devenez partie prenante de la promesse, vous et moi. Vous me suivez? Et ça, c'est là que tout à coup, la logique, elle devient un petit peu plus engageante. Hein? Parce que là, on fait partie prenante de l'exaucement de cette promesse. Peut-être que ça explique aussi pourquoi parfois certains peuvent être déçus de l'expérience d'Église. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous êtes déçus de l'expérience d'Église, que finalement, l'expérience d'Église n'était pas aussi à la hauteur que ce que je m'avais attendu de la part du Seigneur. Peut-être qu'on ne m'a pas reçu, comme la Bible dit. Que peut-être vous avez été jugé ou traité d'une façon qui fait que tout à coup, l'expérience de l'Église, on dirait qu'elle n'est pas nécessairement bien, bien meilleure que mon expérience de famille. C'est normal, ça. Et certains ont cette déception de la vie d'Église. Pour vous, c'est peut-être difficile, même ce matin, de vous réengager dans la vie d'Église parce que vous avez été déçu ou vous avez peur Que même, peut-être que si j'ouvre ma porte, il y en a qui vont profiter puis abuser de moi, ma gentillesse. Parce que comme chrétien, on va être gentil, on va être bon, mais c'est vrai, il y a des gens qui peuvent essayer de profiter de nous, c'est vrai. Puis c'est pas parce que quelqu'un rentre dans l'église qui s'est converti nécessairement, il peut vivre une hausse religieuse, puis tout à coup rentrer dans la famille, puis avec le temps, on découvre que la semence n'était pas une semence profonde. Puis là, oh, la personne est partie, mais on était déçus de se donner, de prendre soin, puis là, de voir quelqu'un partir. Vous me suivez? Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre expérience d'église, mais peut-être, tout à coup, en lisant ça, ça vous heurte aussi parce que vous n'avez pas vécu pleinement une expérience satisfaisante. Parce que dans l'église, il faut le dire, il faut être bien honnête, on est encore un paquet de pécheurs qui avons été pardonnés, mais qui doivent lutter avec nos péchés. On a peur de faire confiance, on a peur d'ouvrir nos foyers, on a peur de s'engager avec quelqu'un puis d'être décevant ou qu'il nous déçoit. Et là, je me risque dessus. Pourquoi je me risquerais? Pourquoi? Parce que Jésus a pris ce risque-là au complet pour moi. Parce que Jésus était au bout du risque qu'on soit décevant pour lui, mais il a été jusqu'au bout. Et il est mort pour beaucoup en rançon, sans regarder le prix, sans regarder la déception que certains profiteraient de lui pour un temps, abandonneraient, etc. Que certains diraient quelque chose sur Jésus, peut-être pileraient dessus, que certains traîneraient son nom dans la boue, que certains, sur son dos, diraient toutes sortes de choses, feraient toutes sortes de choses. Il a pris ce risque-là avec moi. Et s'il prend ce risque-là avec moi, avec toi, il nous invite à continuer à prendre le risque par la foi d'être partie prenante de cette expérience de la communauté chrétienne et du risque que ça implique. Et donc, pensez-y, là. Il y a deux implications et je les répète. Jésus promet ce que nous avons et Jésus promet ce que nous sommes. Remarquez les trois générations au verset 29. Hein? Père, mère, il y a les fils, filles. Et quand vous regardez tout ça, les relations, mais en fait, il y a trois niveaux de relations intergénérationnelles. Et pour certains aujourd'hui, vous avez besoin d'être un enfant pour un aîné qui prend soin d'un aîné dans l'Église. Un aîné qui donne des bons conseils à un plus jeune dans la foi. Un couple qui prend soin d'un autre couple qui est nouveau dans la foi. De faire de la formation de disciple avec quelqu'un qui vient d'arriver. Avec un immigrant à notre maison. Hein? Pour les immigrants. Il parle de terrain. Cela parle de donner au centuple ces gens qui déménagent dans nos villes, dans nos communautés, dans nos églises, qui arrivent d'ailleurs dans un état vulnérable. Et là, d'ouvrir nos foyers à des nouveaux convertis comme des nouveaux arrivants de toute nation. Jésus invite à les entourer et même la terre est bonne pour eux tout à coup lorsque nos biens, on en fait profiter à eux en payant une partie de leur loyer au tout début parce que c'est difficile, en leur amenant une épicerie, en aidant dans les périodes de transition. Tout à coup, notre terrain, l'idée de notre gagne-pain est une bénédiction parce que mon argent n'est plus à moi, est aussi pour les autres, le Seigneur dit. Est au service de la communauté aussi. Et pour faire ça comme il faut, là, d'une façon intelligente, bien, le seul moyen que je peux le faire, c'est en étant collé à Jésus pour que Jésus me guide là-dedans. Et que Jésus, et non la culpabilité, la pression, les besoins, que je sois esclave, mais que Seigneur Jésus m'aide à discerner. Je ne peux pas faire ça avec tout le monde non plus. Mais ce n'est pas en me donnant l'excuse d'avoir été déçu, que je ne peux pas le faire à tout le monde, que là, tout à coup, je me donne des excuses pour rien faire et rester confortablement dans ma zone, sans partager ce que j'ai reçu au centuple, qui doit être partagé à d'autres. Ce matin, je nous pose la question. Quelle promesse ici s'accomplit par l'entremise de ma famille spirituelle pour s'aider les uns les autres? À qui est-ce que je suis promis en tant qu'enfant pour prendre soin de lui et lui ou elle de moi? À qui suis-je promis en tant que famille pour donner du support, du réconfort dans cette génération à quelqu'un qui vient d'arriver, à un nouveau croyant, un nouveau couple, une nouvelle personne? Toutes les générations, toutes les cultures, toutes les différentes possibilités sont là et qui a une copie de ma clé de maison? C'est-tu juste ma maison ou j'arrive à la partager avec d'autres? C'est un peu dérangeant, ça. Hein? n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui nous fait réfléchir ici. Il y a quelqu'un à qui tu te dois d'être. Et Jésus dit que tu recevras au centuple. Nous avons tous une place ici pour être une bénédiction pour d'autres. Il y a toujours quelqu'un un peu plus vieux dans la foi, quelqu'un un peu plus jeune dans la foi qui a besoin d'aide, de recevoir de l'aide, d'offrir de l'aide à quelqu'un d'autre, de faire de la formation de disciples, peu importe l'âge, avec ce que vous avez. Ne vous arrêtez pas. Ce que vous avez est suffisant pour aider quelqu'un d'autre. N'ayez pas peur. Confiez-vous en lui pour vous abandonner. Des gens souffrent de solitude autour de nous, dans leur célibat. Et on a de plus en plus de célibataires, les amis. On est de plus en plus dans l'Église de célibataires. Plus de 50 célibataires dans l'Église. Des gens qui souffrent de solitude, qui ont besoin d'une famille qui s'intéresse à eux, pour qui il va être une bénédiction réciproquement. Pour être une voix de l'Évangile dans ce monde qui nous entoure. Et vous savez, l'illustration ultime de ça, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait à la croix? Jésus, à la croix, va s'intéresser à prendre soin de sa maman. Vous vous rappelez de cette scène-là, unique que Jean raconte? Et là, il pense à Jean qui a besoin d'une mère spirituelle. Il pense à lui qui part comme fils aîné de Marie. Puis Marie a besoin d'un fils aussi qui va être spirituel. Je ne sais pas toute la condition des autres frères et sœurs. Et Jésus voit ce besoin-là. Et là, il voit sa maman. Il est en train de souffrir. Il porte vos péchés, mes péchés à la croix. C'est atroce. Il souffre énormément. Et là, il pense à maman. Puis il dit, maman, voici ton fils Jean. Jean, voici ta mère, Marie. Et il pense à cette relation-là familiale pour prendre soin. Et c'est Jésus qui le fait, à la croix. Alors qu'il est une rançon pour beaucoup, pour vous et moi. C'est pas spécial, ça. Quel engagement. Est-ce que Jésus vaut la peine de tout laisser pour lui? Jésus prétend que oui. Et Jésus nous engage que si nous avons reçu, qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner maintenant, qu'il nous a donné pour pourvoir dans la participation de cette promesse ce matin. Quel engagement. Lisons ensemble, alors que les gens qui sont assignés pour le repas du Seigneur vont s'avancer, j'aimerais lire avec vous les versets qui suivent. Les versets 32. Regardez avec moi. Ils étaient en chemin, en montant vers Jérusalem. Et Jésus marchait devant eux, il était effrayé, et ceux qui suivaient avaient peur, parce qu'ils allaient vers Jérusalem. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré. Jésus dit ça alors que, ici qu'il va être livré, c'est le paiement qui doit être donné pour rendre tout ça possible. Livré aux grands et aux prêtres et aux scribes, et ils condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ça ne sera pas long, on va l'envoyer dans une minute ou deux. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui. C'est assez détaillé, Jésus donne beaucoup de descriptions. Ils le flagelleront, ils le tueront. Et trois jours après, il ressuscitera. Amen. On vient célébrer ça ici ce matin. Après avoir entendu la promesse de Jésus, rappelons-nous que la promesse de Jésus est possible à cause de son sacrifice, qu'on va célébrer ce matin. Son corps brisé, parfait. Son sang innocent, sans péché, qui a coulé pour beaucoup. Et voici ce qu'il dit au verset 45, alors qu'il parle de grandeur et de tout ça. Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Il n'est pas venu pour recevoir de nous, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Et c'est vous et moi la multitude. Et un peu partout dans le monde aujourd'hui, à différentes heures, des croyants à travers tout le monde entier se réunissent pour célébrer ce jour qui rappelle la résurrection de Jésus, se rappeler ce que Christ a fait pour nous. Et de se rappeler que la promesse qu'on a reçue, qu'on a lue ce matin, qu'on est dépositaire, elle est possible à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on le célèbre et qu'on ne veut pas l'oublier. Et être dans un état de reconnaissance. Et comment tout à coup est-ce que nos biens et mon être personnel vont être disponibles aux autres? C'est quand je suis devant ces éléments-là, à les regarder et dire, oh, merci Seigneur. Parce que quand on est en reconnaissance, vous savez ce qui arrive? On n'est pas chiche en train de garder pour nous. On est dans la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la reconnaissance qu'on est, on déborde de ce que Christ met sur nous. Et que si ça déborde, ça va de nous vers d'autres. Ça ne reste pas sur nous, la bénédiction. Et c'est quand on est dans cet état de reconnaissance, ce que Christ a fait, que tout à coup, les sacrifices que je fais, c'est rien à côté de ce que Christ a fait pour moi. Amen? C'est ce qu'on va savourer ce matin. Et j'ai invité nos gens à signer, à distribuer. Si vous êtes baptisés, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous avez manifesté par le baptême, je vous invite à vous joindre à nous, à célébrer cette communion avec le Seigneur, de se rappeler ce qu'il a fait, son corps et son sang. Ce matin, je vous invite à prendre la coupe avec une saveur un peu différente ce matin. J'aimerais qu'on se rappelle la promesse que le Seigneur Jésus nous a faite, qu'on a regardée ce matin et qui rend possible pour nous de recevoir autant. Mais ce matin aussi, de participer autant. De pourvoir autant. C'est possible pour nous de pourvoir autant parce qu'il a été au centuple avec nous. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, en prenant ces symboles, de dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt à tout abandonner pour toi? Ou est-ce que je retiens encore quelque chose? Que tu aimerais ce matin que je cède, que je laisse encore en arrière et que je m'agrippe encore à ce que tu m'as donné. J'ai de la misère à le laisser aller. Ou peut-être est-ce une lutte, un péché. Le Seigneur Jésus, vous savez, a tout donné pour nous. Et il n'est pas découragé de nos bêtises. Bien au contraire, il les a tous pardonnés. Il est heureux de nous accueillir à chaque fois. Les bras grands ouverts. Et dans ce qu'il nous a partagé ce matin, il y a quelque chose en nous, vous savez, qui doit diminuer dans mon soi-même pour qu'il y ait plus de lui en moi-même. Il y a quelque chose aussi qui va nous manquer si nous ne nous rendons pas disponibles à participer à cette promesse qui va heurter notre croissance, qui bloque de profiter de toutes les provisions que Dieu a si généreusement données. Il nous invite ce matin à le céder, à abandonner, pas par obligation, mais parce que je suis reconnaissant, parce que j'avais rien, j'étais perdu. Il n'y avait rien à faire pour ma cause. Mais Jésus m'a sauvé. Jésus m'a tout donné, un sens, mais à partir de son corps et son sang à la croix. Levons-nous ce matin, ensemble, et prenons ces symboles dans un esprit de reconnaissance et un esprit de renoncement, encore une fois, dans le nom de Jésus. Amen. Que c'est vrai pour nous et pour moi, Seigneur. C'est difficile de renoncer à moi-même. Même après avoir renoncé initialement à ma vie, Seigneur, je tends à la reprendre. Et après avoir reçu de ta part autant, je tends à garder. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es si généreux envers moi. Merci pour ton sacrifice, d'avoir donné un sens à ma vie. Nous voulons, Seigneur, célébrer ta vie qui donne un sens à notre vie. Nous voulons célébrer, Seigneur, ton service pour beaucoup. Et nous voulons, Seigneur, le célébrer en étant maintenant nous aussi disponibles pour beaucoup. Guide-nous, Seigneur. On a besoin que tu nous guides, que tu nous conduises à ne pas faire des actes religieux, à ne pas faire des choses par mathématiques, par calcul, mais vraiment d'un cœur sincère de reconnaissance pour toi. Seigneur, fais grandir cet esprit de reconnaissance. Et Seigneur, si ce matin, quelqu'un est en train de calculer le prix présentement en ligne, ici dans la salle, ou en différé, et si, est-ce que je suis prêt comme cet homme, ce jeune homme riche, à tout abandonner? Oh Seigneur, convainc-le, Seigneur, que tu vaux la peine. Oui, tu vaux la peine, Seigneur. Il n'y a rien de trop grand comme sacrifice à laisser derrière pour recevoir de ta part un cadeau si généreux que le pardon de mes péchés. De devenir enfant de Dieu, fils du Dieu très haut, fille du Dieu très haut, héritier, co-héritier ensemble de ton royaume sans aucun mérite, dépositaire du Saint-Esprit comme garantie, dépositaire du Saint-Esprit comme force, comme témoignage, comme guide sur cette terre avec ses défis. Merci, Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, être prêts à tout renoncer par ta grâce. Et nous te le prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.